l'exposé que je vais faire là, en version raccourcie, mais je voulais le faire à partir d'une réflexion qui vaut la peine de se poser, parce que c'est un phénomène interpellant. Donc, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu ce que le camarade a expliqué sur la longue évolution du genre humain. Bon, il faut retenir, c'est que c'est un processus extrêmement long. Et ce qui est caractéristique, surtout de la dernière phase, qu'on appelle le type moyen, le type supérieur, qui a à peu près 1 million d'années à 15 000 ans, à peu près, c'est que le mode de vie des populations humaines, pré-humaines, on peut appeler ça comme on veut, n'a pas énormément changé. Ce sont des populations, ce sont des groupes relativement petits, qui vivent essentiellement en prenant, en prélevant ce dont elles ont besoin sur leur environnement, c'est ce qu'on appelle une économie de prédation, de prédateur, par la cueillette ou par la chasse. Et l'exemple le plus ancien, ce qui vous l'appelle, c'est de voir quelles sont les traces archéologiques et tout ça. Bonjour, installez-vous.
On n'avait pas compris
Voilà. On va discuter des paysans, moi c'est ça qui m'intéresse. Les paysans de l'âge de la pierre, mais je vous propose qu'on se pose ensemble sur base des connaissances des archéologues cette question de comment ça se fait que les hommes qui ont vécu si longtemps de la chasse et de la cueillette par cette économie de prédation, comme je disais, sont à un moment donné passés à l'agriculture. Alors cette économie de prédation, elle a duré extrêmement longtemps, si longtemps qu'elle était déjà pratiquée par des espèces préhumaines comme nos ancêtres à tous, l'Homo erectus, il y a 400 000 ans. Et ici un exemple, c'est une reproduction d'un type d'arme de jet qu'on a retrouvé dans une tourbière en Allemagne. C'est pas par hasard si c'est une tourbière, ce sont des milieux ancestrales qui ne sont pas retrouvés, qui vont conserver un taux d'humidité complètement saturé, 100%, pendant des centaines de milliers d'années. Et dans cette tourbière, on a retrouvé une arme comme celle-là, qui date de 600 000 ans. Voilà. Et c'est vraiment une arme de chasse. Une arme même de jet. Hein,
c'est Homo erectus.
C'est Homo erectus. C'est Homo erectus, donc qui était déjà présent à cette époque en Europe. Et qu'on a retrouvé, une chance exceptionnelle, ce type d'arme simple, mais suffisamment efficace que pour pouvoir pratiquer la chasse. Donc nous sommes certains, sur base de ces découvertes archéologiques.
Le micro, ok. Donc, oui, non, mais avec le micro, on va s'entendre. Donc, sur base de ces découvertes archéologiques, on est sûr que l'humanité, en intégrant Erectus dedans, pratique la chasse depuis au moins 600 000 ans, si ce n'est sans doute davantage, mais voilà. Moi, je me base sur les indices matériels. Et ce qui est interpellant, c'est que près d'un demi-million d'années plus tard, nos ancêtres directs, les Homo sapiens, dont nous sommes les descendants, continuent à pratiquer un mode de vie qui est basé sur la chasse et la cueillette, eux aussi, avec des armes plus sophistiquées, je vais vous les montrer. Mais le phénomène historique interpellant, c'est que 10 000 ans plus tard, après nos hommes de Magdalénien qui ont peint les superbes grottes de Lascaux, hein, 10 000 ans plus tard, la majeure partie de l'humanité est passée à un mode de vie complètement différent, basé sur non plus la prédation des ressources de l'environnement, mais sur la production par la transformation de l'environnement pour pouvoir produire les biens nécessaires à la vie des sociétés. Alors c'est quand même étrange. Pourquoi si rapidement? Pourquoi si récemment? Et pourquoi au niveau mondial ce phénomène de transition économique s'est produit? Et donc c'est à ça que je vous propose de réfléchir sur base des connaissances et des découvertes archéologiques. Alors la première idée que je vais discuter très rapidement, parce que c'est l'objet de nombreux exposés, discussions, expositions derrière vous, c'est que la préhistoire, ce qu'on appelle le paléolithique, c'est pas une période de stagnation où il ne se passe rien. Au contraire, il se passe des choses extrêmement importantes qui ont abouti à ce que nous sommes, nous, les Homo sapiens, c'est-à-dire une espèce animale qui s'adapte et qui a aux contraintes, aux problèmes environnementaux, non pas par ses caractéristiques, les caractéristiques de son corps, mais par le changement de ses idées, de sa culture et de son outillage. En fait, donc, c'est une adaptation culturelle plutôt que biologique. Et ça, ce caractère très particulier qui nous est propre, c'est le résultat d'une longue histoire qui s'est produite par étapes. En gros, échelonné par la sortie de nos lointains ancêtres qui vivaient il y a 2 millions d'années. Vous le voyez sur la carte du monde qui est représentée là. Donc, il y a 2 millions d'années, nos ancêtres directs vivaient essentiellement dans la région tropicale de l'Afrique. Et on voit que la conquête des latitudes, pour m'exprimer ainsi, se fait graduellement de 500 000 ans en 500 000 ans ou en des périodes de temps qui peuvent évoluer. Il y a une raison à ça. En fait, pour les espèces vivantes, les espèces animales, la planète n'est pas uniformément habitable. C'est une évidence qui est basée sur un phénomène physique. C'est que la vie sur Terre repose essentiellement sur la photosynthèse, sur la capacité qu'ont certaines plantes de synthétiser toutes les matériaux avec lesquels les cellules peuvent se produire et se développer à partir du règne minéral. C'est ça ce que permet la photosynthèse. Donc en utilisant l'énergie du soleil pour transformer le monde minéral en environnant en un monde organique, en matière vivante. C'est ça que font les plantes avec la chlorophylle, avec la photosynthèse. Et ce mécanisme de la photosynthèse, il ne se passe pas de la même manière, dans la même quantité, partout sur la planète. Il est maximum près de l'équateur, là où l'énergie du soleil se concentre. Ça se calcule, hein. Il y a des calculs, surtout maintenant que le réchauffement climatique est devenu une préoccupation scientifique mondiale, il y a des calculs très précis sur base d'unités de surface par kilomètre carré, par mètre carré. On connaît en watts, je ne les connais pas par cœur, la quantité d'énergie qui arrive sur la planète en fonction du degré de latitude. Et donc, en gros, plus on s'écarte de l'équateur pour aller vers les pôles, et moins il arrive par unité de surface d'énergie sur base de laquelle la végétation peut se développer et toute la chaîne de la vie, ce qu'on appelle la biomasse, la matière vivante, avec elle. Hein. C'est un phénomène plus compliqué que ce que je raconte parce que ça se vérifie par un gradient à partir de l'équateur vers le pôle, mais vient se rajouter à ça d'autres phénomènes, puisque l'énergie qui vient du soleil est répartie par des flux, les flux qui sont les vents ou les courants marins. Et vous savez que à New York, par exemple, qui est à la même latitude que Madrid, il fait les contrastes saisonniers sont beaucoup plus marqués. Les hivers à New York sont extrêmement rigoureux. Ils peuvent fréquemment atteindre moins 20, moins 30 degrés, alors qu'à Madrid, ça n'arrive quasiment jamais. C'est à cause, justement, de l'énergie apportée par un courant marin qu'on appelle le Gulf Stream. Donc, ce n'est pas si simple que ça, mais globalement, c'est un phénomène physique qui se vérifie et qui fait que pour les espèces de nos ancêtres, les espèces de bipèdes dont nous sommes issus, s'émanciper du milieu original qui était l'Afrique tropicale, ce n'était pas simple. Et que chaque étape a été franchie, je m'exprime de façon imagée, vous comprenez que c'est un processus qui dure des dizaines et des centaines de milliers d'années, mais finalement, chaque sortie par rapport au foyer, à l'écosystème originel, vers des latitudes situées plus au nord, c'est accompagné d'un saut technologique et même biologique dans la capacité des communautés préhumaines d'enregistrer dans leur expérience collective, à travers des outils que sont les idées, que sont l'expérience partagée par un langage articulé, ce qui devient la culture, et l'outillage qu'on est capable de fabriquer avec un cerveau de plus en plus gros et qui devient de plus en plus performant, c'est ça qui a permis à l'humanité de tirer parti de ressources de plus en plus aléatoires, de plus en plus rares par rapport à celles qui sont disponibles à l'équateur. Et donc finalement, si c'est une longue période, c'est une période riche qui a produit des êtres humains pensants, équipés d'un outil formidable qui s'appelle la culture. La culture, c'est l'expérience, non pas d'un individu, c'est pas l'expérience qu'on acquiert parce qu'on vérifie, parce qu'on découvre au cours de sa vie, c'est l'expérience de toutes les générations qui nous ont précédés. Et c'est un outil formidable. On va y revenir. Alors, deuxième idée à avoir en tête, pour comprendre pourquoi ce brusque changement économique et social qu'est la révolution agricole, c'est il faut tenir compte aussi que nos ancêtres directs, les Homo sapiens, que les paléontologues datent d'à peu près il y a 130 000 ans, 120, 130 000 ans, ont connu deux périodes chaudes au cours de leur histoire. Une période chaude, c'est une période comme maintenant. D'accord ? Ils en ont connu deux. Une au tout début de l'apparition, de l'émergence du genre Homo sapiens, il y a 130 000 ans. Et la seconde, c'est celle actuelle. Entre les deux, une phase qui a à peu près duré 120 000 ans, dans laquelle la température moyenne sur la planète était inférieure de 3 degrés, voire de 6 degrés. Alors ça n'a l'air de rien, 6 degrés en moins, mais on parle de température moyenne. Et ça a un impact énorme sur l'environnement, sur la nature, sur les écosystèmes. Réfléchissez un petit peu, rappelez-vous toutes les discussions qui ont lieu à propos du réchauffement climatique, où la communauté des climatologues, des physiciens, etc., essayent d'expliquer au public et au gouvernement ce que ça va signifier une planète plus chaude d'un demi-degré, d'un degré, de 2 degrés, de 3 degrés. Ils essayent de quantifier l'impact que ça a sur l'environnement et sur notre capacité à pouvoir en tirer notre subsistance, pratiquer nos activités agricoles et autres. Et à chaque fois qu'on change d'un degré supplémentaire, ils font des scénarios qui sont de plus en plus, avec de plus en plus de bouleversements climatiques et autres, une remontée des océans, une configuration complètement différente de la planète telle qu'on la connaît. Et disent-ils, un changement de 3 à 4 degrés, c'est vraiment des grands bouleversements, des catastrophes. Et bien là, on parle dans l'autre sens de changements qui varient entre 3 et 6 degrés, donc avec une planète très profondément différente de celle que nous avons connue, dont on a une image relativement juste quand on regarde ce qui se passe près des pôles dans les régions comme la Sibérie. Ça, c'était l'environnement de nos ancêtres pendant 110 000 ans, à peu près. Mais avec des variations, avec des périodes plus chaudes, des périodes plus froides, mais globalement froid, quoi. Voilà. Alors, eh bien, nos ancêtres s'étaient très, très bien adaptés à cet environnement froid, aux grands troupeaux d'herbivores qui paissaient dans les plaines d'herbes sèches comme de type de steppe, de type toundra. Et on a une idée de ce qu'était cette humanité et de sa capacité à comprendre et à observer de façon fine, de façon précise son environnement, notamment à travers ses pratiques artistiques. Alors ces populations qu'on appelle les Magdaléniens, on les connaît par les peintures pariétales comme dans les grottes en Dordogne qui sont magnifiques, qui sont même extrêmement rares à l'échelle de la planète de conserver dans un seul endroit autant de vestiges. Et bien c'est une fenêtre ouverte sur la tête, sur la conscience, sur l'intellect de ces populations qui vivaient il y a 18 000 ans. Donc il y a des outils efficaces, on va en revenir. Mais je voulais regarder cet exemple-là qui est assez connu. C'est un site en Dordogne qui s'appelle l'Abri aux Poissons, où c'est au plafond d'une grotte assez basse. On pense, si je me rappelle bien, que celui qui l'a gravé était couché sur le sol. Et un saumon a été gravé avec un détail anatomique extrêmement précis. Vous voyez la mâchoire du poisson, il y a une espèce de prognathisme. La mâchoire est comme projetée en avant. Ce qui est un détail anatomique très particulier, c'est la morphologie que prend la tête du poisson, du saumon mâle, lors de la période de reproduction. Habituellement, il ne ressemble pas à ça. Il n'a pas ce caractère prognate. C'est à un moment donné très précis. Et ce moment donné très précis, je ne sais pas ce que ça signifie. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'était important pour celui qui a représenté cet animal, ce poisson, de cette façon-là. Toujours est-il que moi, je suis capable de regarder au XXIe siècle la précision dans la description anatomique des hommes sapiens de cette époque. Et il y a beaucoup d'exemples. Il y en a un autre qui est assez connu. C'est, vous savez que nos ancêtres ont vu des mammouths de leur vivant. Ils les ont observés, ils les ont peints, ils les ont représentés. Et ils représentaient dans la partie postérieure près de l'anus de l'animal une grosse boursouflure. Et on n'avait aucune idée de ce que c'était jusqu'à ce qu'on trouve des mammouths congelés en Sibérie dans je ne sais plus quelle année, c'est pas si vieux que ça, et qu'on découvre cet amas de graisse qui a une particularité anatomique des mammouths qu'on ignorait, mais qui était bien connue de ces populations magdaléniennes et qui les représentait. Voilà. Voilà ce que c'est cette humanité équipée d'un regard affûté auquel correspondent des capacités culturelles, intellectuelles de regarder attentivement l'environnement. Et si je vous discute de ça pendant 5 minutes, c'est parce que c'est ça qui est important pour comprendre ce qui va se passer dans la phase postérieure du réchauffement climatique. Une humanité capable d'observer finement, grâce à ses outils intellectuels et culturels, le monde qu'elle a autour d'elle. Voilà. Et donc, effectivement, je reviendrai sur les armes du paléolithique, hein, si ça vous intéresse, mais continuons dans les raisonnements pour le moment. Et donc ils étaient, oui, les homo sapiens de cette époque, il y a 30 000 ans, étaient bien adaptés. Mais globalement, ce mode de vie qui est basé sur l'exploitation des grands troupeaux de bisons, des grands troupeaux de rennes à travers la chasse aux propulseurs, ça ne permet pas d'entretenir une population nombreuse. Et on pense que pendant une très longue période, il n'y avait pas plus de 10 000 à 12 000 habitants dans toute l'Europe. Alors là, c'est encore basé sur des évidences archéologiques. Et par exemple, dans la période qu'on appelle le Gravettien, donc entre 29 000 et 22 000 avant notre ère, il n'y a que 381 sites connus, donc sur une période qui couvre à peu près 7 000 ans, connus par les découvertes archéologiques, ce qui est fort peu. Et plus tard, entre 22 000 et 16 000 avant notre ère, donc à l'époque des Magdaléniens qui ont fait ces peintures pariétales, il n'y a pas beaucoup plus de monde, 486 sites connus, ce qui montre les limites des possibilités de développement de l'espèce humaine dans ces contextes froids et sur base de cette activité de chasse, de gros troupeaux. Et alors, l'événement qui va se produire, donc il y a 13 000 ans de cela, c'est un phénomène mondial, un réchauffement climatique qui va augmenter la quantité de végétaux qui peuvent croître dans à peu près toutes les parties de la planète, à toutes les latitudes, et ces êtres humains que je vous ai un petit peu décrits, capables d'observer et de tirer parti de toutes les opportunités, justement, elles vont commencer à pouvoir se développer beaucoup plus rapidement. Regardez les chiffres pour la période qui accompagne ce réchauffement climatique. Donc ici, on est entre 12 000 et 10 000 déjà avant notre ère. Donc il n'y a pas encore de révolution agricole possible là. Mais il y a déjà une augmentation spectaculaire de la population. Donc 1221 sites qui sont connus et sur une période encore bien plus courte que les périodes précédentes. Et donc on voit une croissance de la population qui parvient à tirer parti des ressources de son environnement. Alors on va en discuter de c'est quoi ces nouvelles ressources. Donc en tirer parti toujours en pratiquant ce mode de vie basé sur la chasse, la cueillette, la pêche, etc. Et ces nouvelles ressources, ce sont essentiellement les féculents. Les féculents, ce sont des végétaux qui sont riches en glucides, c'est-à-dire qui sont des sucres qui contiennent des amidons, qui sont facilement assimilables par l'organisme et disponibles pour les cellules, pour les neurones, etc., pour les faire fonctionner. C'est de l'énergie en bloc que les cellules peuvent assimiler très rapidement pour faire fonctionner leur métabolisme. Alors, ces féculents, on les connaît tous puisque nous sommes les descendants de cette humanité qui a appris à en tirer parti. Il y a les fruits à coque dure. Et vous allez voir qu'il y a des civilisations entières qui se sont développées sur la consommation des fruits à coque dure. Et il y a aussi les tubercules comme la pomme de terre, le manioc, le taro. Ce sont des sources de féculents très importantes. Et bien entendu, les graminées dont sont issues les céréales, ce qu'on va discuter là tout à l'heure. Alors, un des sites les plus anciens qui est connu de ce nouveau mode de vie, où donc des populations qui vivent de la chasse et de la cueillette, qui ne sont pas encore du tout des paysans, mais qui consomment massivement ces féculents, c'est au Chili, à Monteverde, à 500 km au sud de Santiago, dans un site archéologique qui est daté de 13 000 ans avant notre ère. Et on voit que ces populations, donc c'est un site qui est connu parce que c'est là encore un site très humide en bord de lac, dans des tourbières, où tout a été conservé. Il y a même un os de lama avec de la viande dessus, pour vous dire le degré de conservation qui permet aux archéologues d'étudier de façon relativement précise leur mode de vie, leur alimentation, leur consommation, etc. Alors, c'est des populations côtières qui avaient une économie particulièrement bien adaptée à l'exploitation des ressources du littoral. D'ailleurs, ils sont issus des populations qui ont passé le détroit de Bering, on pense, entre 20 000 et 16 000 avant notre ère. Hein, et en 13 000, leurs descendants sont déjà arrivés quasiment au sud du continent américain, mais ils ne sont pas encore enfoncés en profondeur dans les continents. C'est vraiment des communautés qui se sont spécialisées dans l'exploitation des ressources côtières et qui pratiquent encore ces activités. Mais en 13 000 avant notre ère, l'environnement a changé, et notamment ce qu'on retrouve dans leurs villages, parce qu'ils ont des villages représentés par cette vue d'artiste, eh bien, ce sont des pommes de terre sauvages qui ne sont pas cultivées, qui sont récoltées, hein, mais qui sont consommées en abondance par ces populations pour leurs propriétés nutritives. Alors, un autre exemple, je vous parlais des civilisations des fruits à coque. Eh bien, il y a une civilisation très connue, très impressionnante, qui est la civilisation Yomon, en 9500 avant notre ère, avec une croissance de la population spectaculaire. Le Japon va se couvrir de villages, parce que ça devient des populations sédentaires. Ça, c'est un phénomène nouveau. Alors, ils consomment essentiellement des fruits à coque, des noix, des noisettes et des mollusques. Il y a des amas coquillés de plusieurs mètres de haut qu'on retrouve au même endroit, puisqu'ils habitent des villages de façon permanente. Et la raison pour laquelle ils habitent de façon... Ils se fixent à un endroit alors qu'ils continuent à vivre de la chasse et de la cueillette, eh bien, on la voit en Chine du Nord, en moins 9000, par l'équipement massif que les populations développent pour pouvoir vivre à partir de la consommation de fruits à coque. Alors, je vais, si vous le permettez... Il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes de l'humanité. Voilà un fruit à coque bien connu. Imaginez, vous êtes un responsable de tribu, et vous devez nourrir une communauté tous les jours sur base de ce type de ressources. Il y a évidemment la chasse, la pêche, tout ce que vous voulez, mais l'essentiel des apports nutritifs de vos 30 à 50 personnes, avec les femmes enceintes, les enfants, etc., c'est sur cette base-là. Bon, eh bien, la solution qui a été trouvée, c'est un équipement massif. Ce sont des meules et des molettes qu'on retrouve, qui équipent les maisons Yomon au Japon, les maisons en Chine du Nord au Shaanxi et d'autres qu'on va voir au Proche-Orient. Et c'est une des raisons de la sédentarisation de ces populations qui vivent toujours de la chasse et de la cueillette, c'est que les ressources de leur environnement sont abondantes, ce ne sont plus les mêmes que précédemment dans le paléolithique supérieur, et une des adaptations de leurs pratiques de chasse et de cueillette implique une sédentarisation pour pouvoir tirer parti de ce type de ressources que sont les fruits à coque dure. Alors, au Proche-Orient, je vais te débarrasser de mes noisettes parce que tu ne dois nourrir personne ce soir. Donc, au Proche-Orient, il y a ce type de ressources, en moins 10 000 avant notre ère. Vous voyez, c'est un phénomène mondial. Hein, ça se produit à l'échelle de l'humanité. C'est partout que ça se passe, cette transition, ces nouveaux gestes, ces nouvelles activités. Hein, et au Proche-Orient, la particularité, c'est à côté des ressources de tubercules, de fruits à coque, etc., ce sont les graminées qui vont être exploitées. Alors les graminées, tout le monde sait ce que c'est, je vais en montrer une, ce qu'il en reste.
Ça, c'est une espèce de céréale que je ne connais pas, ça pourrait être, je ne sais pas quoi, l'avoine ou quelque chose comme ça.
Et ceci, la pauvre petite bête à côté, c'est une graminée, c'est la plante sauvage qui est en gros, on peut dire, l'ancêtre des céréales. Et c'est ça que les populations au Proche-Orient, en 10 000 avant notre ère, prennent l'habitude de récolter pour servir de base à leur alimentation. Évidemment, les graines, vous l'avez compris, sont à leur tour broyées sur des meules, hein, et c'est la pâte qui est cuite pour manger du pain. Hein, c'est pas vraiment le pain que nous connaissons parce qu'il n'est pas panifiable, il n'y a pas de levure dedans, etc. Mais c'est quand même la consommation de ces futures céréales, la base de l'alimentation. Alors, oui, comment est-ce qu'on peut expliquer, comment est-ce qu'on peut comprendre le passage de ces graminées qui sont consommées par nos ancêtres, parce que ce sont nos ancêtres les plus directs, les populations natoufiennes au Proche-Orient il y a 10 000 ans, hein, le passage de ces graminées à cette denrée magnifique qu'on consomme un peu en minimum une fois par jour, hein, c'est pas des Français que je dois le dire, c'est pareil dans toute l'Europe, il y a des cartes, il y a une cartographie des habitudes alimentaires qui sont très révélatrices sur les habitudes alimentaires des Européens. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on, la plante, la graminée, on est passé à cette espèce de mutant par une série de sélections génétiques, parce que c'est ça qui a été opéré. Et évidemment, les populations, les femmes, parce que c'est sans doute elles les responsables de tous ces chambardements, c'est elles qui vont à la récolte des graminées dans les plaines. Et comment est-ce qu'elles ont opéré cette transformation de la graminée en céréales? Alors, il y a une circonstance qui est complètement indépendante de la volonté des êtres humains, c'est les particularités génétiques de ces graminées qui sont les ancêtres du blé, de l'orge, de l'avoine, etc. C'est que ce sont des espèces autofécondes. Ça, c'est très important. C'est un hasard. Mais la conséquence de ça, c'est que les caractéristiques génétiques qu'on sélectionne par des gestes, et on va discuter quels gestes, vont être transmis par la plante à ses descendantes sans être perturbés ou pollués, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut m'exprimer, par des apports d'individus sauvages, si vous voulez. Donc, si une pratique humaine sélectionne une caractéristique d'une graminée, eh bien, si on replante la graine, elle va conserver cette caractéristique à travers ces centaines de milliers de générations de graminées et puis de céréales, parce qu'elle est autoféconde et pour cette raison-là. Ça, c'est donc très important. Et donc, quelles sont ces caractéristiques génétiques qui vont être sélectionnées par les natufiennes qui ont créé le blé? Eh bien, la première, c'est que ces caractéristiques, il faut s'imaginer, ce sont donc des populations, vous l'avez vu, qui un petit peu partout sont confrontées déjà à une croissance de la population, à une croissance démographique. Donc, leurs nouvelles pratiques de collecte des féculents, c'est un succès. Et ce succès se traduit par une augmentation du nombre de bouches à nourrir. Et il y a un autre phénomène biologique dont il faudra qu'on discute. Mais toujours est-il que le problème des natoufiennes, c'est de trouver une solution au fait qu'il y a de plus en plus de gens à nourrir et que les pratiques de collecte dans cet environnement au Proche-Orient sont de moins en moins efficaces parce qu'il y a de plus en plus de villages, on passe de plus en plus de temps à récolter pour ramener de moins en moins. Bon. Et donc, imaginez ces femmes intelligentes, capables de bien observer la nature et les différentes caractéristiques. Et donc, les premières choses qu'elles vont sélectionner, elles vont dans les plaines récolter les premières graines de ces graminées qui ont germé. Et ce sont, en fait, celles qui contiennent le plus de glucose, qui germent avant les autres. Donc, il y a d'autres récoltes qui vont suivre, qui vont récolter les graines suivantes. Mais il y a déjà une séparation qui se fait par ces gestes-là. C'est les graines les plus riches en glucose vont être sélectionnées en premier. Et donc, ces graines-là vont être séparées des autres graines des graminées. Une seconde caractéristique, c'est qu'elles vont, à un moment donné... récolter les épis sur lesquels les graines restent attachées, ce qui, du point de vue du cycle naturel, est une aberration. C'est comme si un enfant ne pouvait pas naître s'il reste attaché sur la tige. Et c'est cette caractéristique que les natoufiennes, hein, c'est le nom culturel qu'on leur donne, vont sélectionner. Et vous avez les deux caractéristiques principales qui vont donner les céréales. Et donc, ces femmes qui sont justement responsables, on doit résoudre le problème de nourrir tout le monde, elles comprennent qu'il y a des... elles distinguent, elles remarquent qu'il y a des épis qui sont beaucoup plus fournis que d'autres, beaucoup plus fournis que ceux qu'on observe dans la nature. En général, ces épis poussent autour du village, puisqu'ils les ont ramenés, hein, et elles vont avoir l'intelligence, la démarche de sélectionner ces graines-là, ces épis plus fournis, avec des grains plus gros, et de les replanter pour pouvoir récolter cela, puisqu'elles elles sont confrontées à un problème d'accroître les ressources, et elles font cette démarche-là. Et c'est ça qui est à l'origine de la domestication de ces céréales. Voilà. Alors, il y a associé à la domestication des céréales, toujours au même endroit du Proche-Orient, très rapidement, en quelques siècles, on voit apparaître la domestication des animaux. Et c'est pas un hasard, parce que en fait, c'est une solution d'avoir ces épis avec des graines grosses qui contiennent beaucoup de glucides, mais c'est un problème aussi, parce que dans la plante, le contenu, la graine, c'est du sucre, des sucres lents, des amidons. Et donc ça, c'est dans le volume de la graine, si vous voulez. Plus la graine est grosse, et plus vous avez de glucides. Mais par contre, les protéines, elles ne sont pas dans le contenu, dans le volume de la graine. Elles sont dans l'écorce qui est autour de la graine. Et donc, alors que les ressources en glucides croissent au cube, comme un volume, comme une sphère, les ressources en protéines, elles croissent seulement au carré, comme ce qui est le cas d'une surface. Et donc, plus les blés sont riches en glucides, et plus ils sont pauvres en protéines. Ce qui représente un problème, parce que les protéines sont indispensables pour fournir les acides aminés utilisés par le métabolisme de nos cellules pour fabriquer toute une série de choses qui font fonctionner l'usine cellulaire, si vous voulez. Et une des façons qu'ont trouvé ces populations du Proche-Orient de compenser cette carence alimentaire qu'induit la consommation de ces céréales domestiquées, c'est la consommation de protéines animales à travers sans doute non seulement la consommation carnée, mais même les produits lactés fournis par les chèvres sauvages qui sont domestiquées, puis les sangliers, essentiellement pour la consommation de viande, et bien quelques siècles plus tard, les bœufs. Qui sont les descendants des aurochs. Et la conséquence de toutes ces trouvailles, de toutes ces pas techniques dans les techniques agricoles en avant, c'est une importante croissance démographique, parce que là encore, phénomène tout à fait non voulu et dont les non compris, c'est que les femmes qui ont un mode de vie sédentaire dans ces communautés qui commencent à domestiquer les plantes et les animaux sont beaucoup plus fécondes que celles qui mènent un mode de vie nomade. C'est un phénomène naturel. La fertilité de la femme est déterminée par une espèce de bilan énergétique, c'est-à-dire la différence entre la quantité d'énergie qu'elle ingère par son alimentation et celle qu'elle va dépenser par son activité physique, son travail, au cours de sa semaine. Et un bilan énergétique favorable qui dure plusieurs semaines réenclenche la machine hormonale qui détermine la fécondité. Et cette balance énergétique de quelques semaines, ça ne tient pas à grand-chose, est rarement positif sur une durée de quelques semaines chez les femmes qui ont un mode de vie nomade, alors que c'est très fréquent chez les paysannes. Pour parler comme ça, parce qu'on peut parler de populations qui pratiquent l'agriculture. Et la conséquence, c'est une explosion démographique, comme jamais l'humanité n'en a connu jusque-là. Et donc, on peut la quantifier. Hein, donc, ces villages natoufiens, parce que c'est qui se sédentarisent en moins 10 000 avant notre ère, hein, sur 3 arts, qu'on devait compter, selon les estimations, une cinquantaine d'habitants. Et en 6 500 ans avant notre ère, pas si longtemps que ça à l'échelle de la vie de notre espèce, on retrouve en Turquie, à Çatalhöyük, un village de 10 hectares qui contenait sans doute 5 000 habitants. Voilà. Et donc ce phénomène de domestication des plantes, de complément, donc qui est associé aux domestications des céréales, il y a aussi des domestications animales, et c'est un phénomène mondial pour les mêmes raisons. Toutes les populations, toutes les tribus, toutes les communautés qui sont capables, à travers leurs pratiques, de répondre aux problèmes, aux contraintes qui se posent, aux contraintes nutritionnelles, etc., par les bonnes pratiques, sont favorisées sur le plan de leur croissance, y compris de leur croissance démographique. Et c'est pour ça que c'est ces pratiques-là qui se propagent partout dans le monde. Et comme on le voit avec ce qui s'est passé avec la croissance de nos ancêtres de la Mésopotamie, parce que c'est bien le cas, voici une carte de la propagation de ces pratiques agricoles et d'élevage dans notre partie du monde. Donc cet élevage des plantes et des animaux achevé en moins 8000 avant notre ère au Proche-Orient, donc dans la région de l'Irak, de la Syrie, de l'Iran actuel, se retrouve dès 7500 avant notre ère en Anatolie, en Turquie actuelle. En 6800, c'est déjà sur le littoral de la Grèce. En 5700, dans le sud de la France. Et en 5300 avant notre ère, il commence à apparaître dans le nord-ouest de l'Europe. Et ce gradient est significatif. Ce qu'on voit à travers cette carte, c'est que la mer Méditerranée n'est absolument pas un obstacle aux migrations et au déplacement de ces populations d'agriculteurs, mais par contre ce qui se trouve ici, là c'est un gros obstacle et donc la propagation est plus lente. Vous allez comprendre ce qui s'y trouve justement. Eh bien, il s'y trouve une forêt assez dense, et donc les paysans préhistoriques vont devoir défricher cette forêt européenne à partir d'une nouvelle technologie, là encore, qui est la pierre polie, qui est une façon de travailler la pierre qui la rend suffisamment résistante que pour pratiquer de façon intensive le travail du bois, et notamment un travail d'abattage pour enlever les arbres et pouvoir avoir des prairies pour le bétail et surtout des champs pour les céréales. Et donc c'est vers cette époque qu'on voit apparaître les habitations. Évidemment, les archéologues, vous en doutez, c'est pas ça qu'ils découvrent. Hein. Ce qu'ils découvrent, je vais vous montrer. Voilà ce qu'on on peut avoir la chance de trouver sur un chantier archéologique quand on fait un décapage, c'est-à-dire qu'on retire le sol humifère et qu'on tombe sur un sol ancien. On tombe sur le plan de construction de la maison, les empreintes laissées par les poutres porteuses de ces maisons de ces premiers agriculteurs préhistoriques européens. Alors pour la forme exacte de la maison, on procède comme on le fait pour chaque fois qu'on se pose, les archéologues se posent une question. Par des expérimentations, Et en France, en Belgique, il y a de nombreux archéosites qui essayent de faire des habitats qui correspondent à ce plan d'architecte que vous voyez et qui tiennent le plus longtemps possible. Plus vous avez une maison qui résiste aux hivers, au climat, aux conditions climatiques européennes, et plus on a de chances de se rapprocher d'une vérité historique, si vous voulez. Et donc, il faut imaginer des maisons qui ressemblent à celles que nous voyons représentées sur cette vue d'artiste. Oui, et donc voilà, ce sont des populations qui sont engagées dans un processus de transformation en profondeur de leur environnement. Et donc on estime qu'en 4000 avant notre ère, il y a déjà près de 30% de la forêt primaire européenne, une forêt de chêne s'il vous plaît, qui a été défrichée par ces populations dont l'outillage est ceci. Alors je vais vous la faire passer, faites-y très attention, c'est une vraie hache polie. Voilà. Et donc vos ancêtres ont commencé le défrichement de la forêt européenne avec ça. Alors je termine ce petit exposé sur les conséquences de cette mutation économique qui est l'agriculture, le mode de vie sédentaire. C'est une croissance de la population qui ne s'est plus arrêtée depuis, et vous voyez les courbes qu'on fait les démographes, et même les paléodémographes, ceux qui s'occupent de la démographie de ces populations préhistoriques. Et vous voyez, alors que au paléolithique supérieur dont je vous ai parlé, il y avait une croissance de la population, mais qui était quasiment infinitésimale. Voilà la croissance de la révolution agricole néolithique, et puis celles qui vont suivre. Et la courbe est extrêmement impressionnante. Voilà quelques chiffres pour s'en faire une idée. Donc, de moins 10 000 à moins 5 000, la population humaine de la planète passe de 5 millions à 50 millions. De moins 5 000 à moins 3 000, elle double. Et de moins 1 000 à 1 000, donc un peu au début du Moyen-Âge, elle a encore doublé, à chaque fois à travers des étapes décisives dans le fonctionnement de cette économie agricole, et pour atteindre une vitesse de croissance très impressionnante, qui est celle qu'on connaît aujourd'hui, puisque nous sommes 7 milliards sur cette planète. Et c'est là-dessus que je veux terminer. Aujourd'hui, dans le climat de consternation face au fonctionnement et aux problèmes de la société, c'est plutôt des idées pessimistes. Il suffit de regarder les films qu'on fait au cinéma, sur les films de zombies, sur les films de catastrophes, etc. Et bien, l'état d'esprit en science est un petit peu à l'unisson de tout ça. Et cette croissance démographique, on en voit qu'un seul aspect, c'est l'aspect problématique. Il y a trop de monde. Nous dit-on, et nous disent même des gens extrêmement cultivés, ils connaissent extrêmement bien toute cette histoire que je vous ai racontée. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde et que ça pose des problèmes de ressources, voilà. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Moi, ce que j'ai envie d'insister, de souligner au fluo, ou je ne sais pas comment, c'est l'autre partie qui est le dynamisme technique et culturelle et économique dont fait preuve l'humanité, qui suit la même courbe. Plus il y a de gens et plus notre capacité à transformer, je te remercie, notre environnement augmente, lui aussi de façon exponentielle. Et donc c'est un raisonnement faux en soi de raisonner abstraitement uniquement à partir des chiffres de la population. Ce qu'il faut considérer, c'est le rapport à l'environnement et au fonctionnement, la façon dont on utilise les techniques, les ressources, les technologies, et c'est ça qui est en question. Mais en gros, l'histoire de l'humanité montre que la solution à nos problèmes est aussi une option, comme l'ont démontré de grands-mères natoufiennes, qui ont trouvé la solution à la pression démographique, et une solution qu'on mange tous les jours. Voilà. Si vous avez des questions, je ne sais pas sur quel aspect est-ce que vous avez envie de revenir, ou des questions même d'un autre ordre.
L'invention du feu, la maîtrise du feu,
la maîtrise du feu, c'est quelque chose d'assez ancien. Alors, ce qu'on sait dans les sites en Europe, c'est que de façon systématique, associé aux endroits où on voit que des êtres humains ont habité, des Homo erectus, etc., sont associés des restes de feu, de foyers. Et donc, on pense que dès cette époque, moins 400 000, moins 500 000, non seulement on utilise, les êtres humains utilisent le feu, mais ils savent le produire à cause du lien systématique. S'ils sont là, ils font du feu. Ça veut dire qu'ils maîtrisent la technique. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas plus ancien. C'est peut-être même beaucoup plus ancien. Mais à partir de cette époque-là, il y a un demi-million d'années, il y a une maîtrise suffisamment efficace que pour que les hommes puissent faire du feu dès qu'ils en ont besoin. Je ne sais pas. Excellente question. Moi, je connais l'histoire de l'Europe. Je ne sais pas quelles sont les découvertes qui sont pratiquées en Asie. Je sais que ces découvertes évoluent extrêmement vite et je ne vois pas pourquoi est-ce que les erectus européens auraient eu un avantage technologique. Voilà. Ah oui, ben le fait de pouvoir maîtriser le feu, maîtriser au sens de on en a besoin, on en fait, et on en fait autant que nécessaire, c'est une conquête technologique, on peut dire, décisive, qui permet à nos ancêtres erectus de s'acclimater à des environnements beaucoup plus froids que ceux qui existent même au Proche-Orient, et ça correspond. Et donc, on retrouve à peu près à cette époque, c'est un des exposés précédents qui me l'a appris, des empreintes de pas dans le long de falaises en Grande-Bretagne qui ont été mises à jour par des effondrements. Donc, c'est des plages très anciennes, hein, avec des traces de pas fossiles qui ont été mises à jour parce qu'il y a eu des effondrements de falaises. Et donc, c'est des traces de pas d'Erectus qui datent de cette époque. Or, on sait, les climatologues savent qu'à cette époque, le pôle glaciaire n'est plus très loin. Donc, déjà, des Homo erectus qui maîtrisaient le feu étaient capables de vivre et de pratiquer leurs activités dans des régions extrêmement froides. Voilà. Et donc, bien entendu, vous rappelez la carte mondiale de la conquête des latitudes, le feu, la maîtrise du feu est une étape fondamentale que pour pouvoir aller au-delà, il y a une latitude, je ne l'ai plus en tête, mais pendant longtemps, ça a été un front, une barrière à l'extension de nos ancêtres. Et une fois que la maîtrise du feu est acquise, cette barrière géographique, climatique est franchie, en fait. Oui, c'est l'inverse. C'est la nécessité de pouvoir ouvrir cet environnement boisé qui va développer et perfectionner cette technologie de la pierre polie. Alors les Natufiens dans les plaines du Moyen-Orient n'avaient pas vraiment ce problème-là. Il y avait des arbres, il y avait des chênes, il y avait des pistachiers, etc. Mais c'était un environnement naturellement ouvert. C'était des plaines giboyeuses avec des ressources abondantes, mais ce n'était pas difficile de faire croître des céréales parce qu'il n'y avait pas des forêts pour monopoliser la lumière du soleil. Or, l'Europe, elle, est couverte d'une forêt primaire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une forêt primaire. J'insiste beaucoup sur ce point parce que on a souvent difficile à raisonner au problème de nos ancêtres parce qu'on vit dans un environnement qui est complètement artificiel. Et donc, ça vaut la peine de voir ce que c'est de sa vie, de son vivant, une forêt naturelle dans laquelle l'homme n'intervient pas. Hein, et de surcroît, une forêt de chêne qui est une des essences d'arbres sous nos latitudes les plus résistantes qui soient. Et donc, une forêt, une chênerie naturelle, la plupart des arbres, des individus, ils atteignent l'âge de deux siècles, trois siècles. Moi, je n'en fais pas le tour avec mes deux bras. Et c'est ce mur végétal-là que les hommes de l'âge de la pierre ont dû ouvrir. Et c'est là où la pratique du polissage est décisive, parce que ça augmente de façon très sensible la résistance mécanique de la lame par, dans l'usage, imaginez le nombre d'impacts qu'une lame de hache va subir au cours de sa durée d'utilisation, hein, et le polissage transforme complètement la résistance mécanique de la roche à ses impacts. C'est un phénomène physique dont on peut discuter. Oui. Donc, on fait cette supposition parce que, en fait, le propre de l'espèce humaine et des différentes humanités, on n'a pas l'habitude de le voir sous cet angle-là et ça peut surprendre, mais c'est que les sexes coopèrent, en fait. Ce qui n'est pas le cas chez les autres primates. Chez nos plus proches cousins dans le règne animal, que sont les chimpanzés, les bonobos, etc., il y a peu ou pas du tout de coopération entre les sexes. Il y a même peu ou pas du tout de coopération entre les individus. Il y a des interactions extrêmement importantes entre eux, mais ils ne travaillent pas ensemble. Chacun vaque à ses affaires. Et une des caractéristiques les plus anciennes de la préhumanité, c'est justement ce travail, cette coopération entre les sexes, qu'on découvre sur des sites âgés de plusieurs millions d'années. On retrouve des empreintes de pas d'Australopithèque ou de descendants d'Australopithèque femelles mêlées à des empreintes de pas mâles et des restes de nourriture vraisemblablement ramenés par les mâles qui, chez tous les primates, sont ceux qui pratiquent la chasse. Les chimpanzés chassent, hein. Il n'y a pas que les êtres humains. Les animaux malades qui ont le malheur de passer à proximité d'un groupe de jeunes chimpanzés, ben, les chimpanzés ils vont tenter leur chance, essayer d'abattre et de consommer la viande. C'est exceptionnel dans leur alimentation, mais ils le font. Et donc c'était déjà le cas chez les descendants des Australopithèques. Et le geste qu'on découvre archéologiquement, c'est que plutôt que de consommer la viande sur place après avoir tué l'animal ou même une pratique de charognage, le geste décisif sur le plan de l'évolution, c'est qu'au lieu de le manger, les mâles rapportent aux femelles. Parce que les femelles font autre chose pour l'espèce qui est extrêmement important, qui est la socialisation des petits. Ce qui permet finalement de prolonger la phase dans laquelle le jeune humain est en une période de développement cérébral intensif, en cours intensif auprès de sa mère et des autres femmes, de prolonger son enfance. C'est un phénomène biologique, et prolonger l'enfance, c'est augmenter les capacités cognitives, les capacités culturelles, la somme d'expériences que le nouvel être humain va à son tour exploiter pour résoudre les problèmes, ses problèmes à lui et ceux de sa communauté. Donc, en fait, chez nos plus lointains ancêtres bipèdes, on remarque cette coopération entre les sexes basée, d'une part, sur le fait que les femmes sont responsables de la socialisation des jeunes, et cette tâche qui est poussée, les limites d'âge sont repoussées puisque l'enfance se prolonge, elle est rendue possible par le comportement des mâles qui partagent leur nourriture avec les femelles. Donc ça, c'est un phénomène historique très très ancien. Et alors, si on pense que ce sont les femmes qui ont fait ce genre de choses, c'est parce que justement, il y a chez toutes les communautés humaines qui pratiquent la chasse et la cueillette une division entre les mâles qui chassent, en gros, il y a des exceptions, mais il y a des femmes qui chassent à l'occasion, mais en gros, ce sont plutôt les hommes qui chassent et les femmes qui pratiquent la cueillette. Et donc, si c'était le cas, comme c'est la plupart du cas, le temps chez les populations observées par les ethnologues, ce sont bien les femmes natoufiennes qui ont fait cette sélection-là. C'était leur travail, en fait, de collecter les graminées. Et donc, à part cette division des tâches, on ne pense pas, en tout cas moi je ne pense pas, sur base des découvertes archéologiques qui ont été faites, qu'on peut imaginer une domination d'un sexe sur l'autre, y compris dans cette période du début de la révolution agricole. Ça, ce sont des phénomènes qui commencent à se produire et à accompagner le développement de la société qui se fait quand, dans la foulée de cette révolution agricole, il y a une croissance de la population et la mise en place de réseaux d'échanges économiques qui sont les moteurs de l'apparition de la propriété privée. Et c'est dans ce contexte où le travail des hommes qui produit matériellement les objets qui sont échangés dans les réseaux d'échanges économiques qui existent déjà au néolithique, ça, ce ne sont pas les femmes qui les produisent, ce sont les hommes. C'est difficile à affirmer pour des populations qui ont vécu il y a 6000 ans, mais par contre, ça s'observe très nettement chez des populations contemporaines. J'ai montré dans mon exposé des photos de populations, je crois que c'est ici, j'espère. Ah non, c'est pas ici. Donc dans un autre exposé, j'ai montré des photos de Papous qui vivent en Irian Jaya, en Nouvelle-Guinée. Là aussi, ces réseaux d'échange existent et ils sont maîtrisés par les hommes parce que c'est eux qui produisent, du fait de la division sexuée des tâches, c'est eux qui produisent ce qui est échangé dans ces réseaux-là. Donc, si vous voulez, que ce soit le bétail ou que ce soit les lames qui sont échangées, c'est les hommes qui sont propriétaires de ce qui constitue une valeur économique importante. Alors que les femmes, elles ne sont propriétaires de ce qu'elles font, c'est-à-dire de la socialisation des enfants et de l'entretien d'un potager, d'une cueillette, qui n'accumule pas une richesse socialement importante dans ces sociétés en pleine évolution. Donc ça va ensemble, en fait. Le fait que l'émergence de rapports d'échange économique et de la propriété privée qui s'accumulent entre les mains de ceux qui produisent c'est bien rare comme les lames polies et l'inégalité entre les sexes, ça va ensemble en fait. En tout cas, c'est mon opinion. Oui. Oui. Alors, je comprends que tu utilises le terme de vitesse parce que il est inévitable que ce soit ce phénomène-là qui nous frappe. Regardez. Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez de la vitesse. L'évolution humaine, de la quelque façon qu'on la mesure, s'accélère. Voilà. Historiquement, c'est un phénomène nouveau. En fait, les gens au temps moderne, à l'époque de la découverte des Amériques, etc., ils pouvaient déjà dire la même chose. Hein. Mais même par rapport à cette époque-là, quand cette époque cette actuelle, qui envoie des petits robots se poser comme ça sur des astéroïdes, avec toutes les capacités de télécommunication, les pratiques agricoles modernes, où ce sont des machines qui sont pilotées par les satellites qui répartissent les engrais dans les champs agricoles. Enfin, un ingénieur agronome, dans 10 ans, il peut retourner à l'école parce que tout aura de nouveau changé. Ça va de plus très très vite, ça c'est vrai. C'est un phénomène nouveau et c'est normal que ça nous pose question et même que ça nous préoccupe. Maintenant, est-ce que c'est la vitesse le problème ? Moi, je pense que c'est l'orientation dans le débat, l'humanité débat de ses problèmes, et ça c'est parfaitement sain et normal, mais on axe toute la discussion au niveau médiatique, au niveau politique, etc., juste sur le phénomène de la vitesse, ce qui est une façon difficile de discuter, je trouve, parce qu'on discute beaucoup de la rapidité avec laquelle les problèmes évoluent, et pas du tout de la façon avec laquelle les solutions évoluent, si ce n'est dans les pages événements, les pages scientifiques, etc., à la fin du journal télévisé, etc., quand on a vu toutes les catastrophes, on voit aussi ce que l'humanité est capable de faire et on passe au sport. Et on ne voit pas le lien. Il n'y a pas de rapport. On a l'air d'accumuler des problèmes de plus en plus immenses qui nous dépassent et pas d'avoir des solutions, mais c'est aussi la façon dont on regarde ces phénomènes-là. Parce que la réalité... c'est qu'au jour d'aujourd'hui, non pas selon les militants lutte ouvrière, mais selon l'Organisation pour l'alimentation dans le monde des Nations Unies, la FAO, on peut nourrir aujourd'hui, selon des critères qualitatifs extrêmement élevés, 12 milliards de personnes. On est 7 milliards, il y en a 1 milliard qui est sous-alimenté. Ce n'est pas la vitesse qui est en question ici. C'est la façon dont la société actuelle utilise les ressources technologiques pour produire du profit plutôt que de nourrir l'humanité. C'est ça le problème. Et tu comprends aussi que ce n'est pas la discussion qui est menée au journal du soir à 20h sur TF1. Par contre, on discute de la vitesse, ce qui est à mon avis une façon de botter en touche, pour m'exprimer ainsi. Oui. Oui, alors c'est... oui. Mais peut-être qu'on va aussi résoudre ces problèmes en intervenant sur notre propre organisme. C'est déjà ce qui est en train d'arriver. J'ai parlé de révolution agricole, etc. Mais dans le domaine thérapeutique, quand vous écoutez un médecin un peu au fait des nouvelles technologies, ce mot va revenir dans sa bouche inévitablement. Même s'il vote conservateur aux élections, etc., il va parler des révolutions thérapeutiques parce qu'il n'y a pas d'autre terme pour décrire ce qui est en train de se passer. On est en train de mettre au point des thérapies qui vont permettre de soigner ce qu'on appelle les maladies orphelines, la plupart des cancers. Ça ne veut pas dire que demain, la plupart des cancers seront soignés, parce que ça, c'est une question sociale d'accès aux ressources, d'accès aux richesses, d'accès aux soins. Mais en tout cas, la possibilité technique, elle va aller croissant. Comment est-ce que ça va se passer ? Moi, je n'en sais rien du tout. Ce qu'il y a, c'est qu'en descendant de Magdalénien, qui regarde de façon attentive mon environnement, ce que je veux attirer ton attention, c'est sur la capacité de l'humanité de faire croître ses solutions. Elle est aussi exponentielle. C'est une réponse de Normand, tu vas me dire, mais... Mais l'augmentation de la fécondité chez les natoufiennes au Proche-Orient à 10 000 ans, c'était pas choisi non plus. Et l'humanité a relativement choisi peu de choses. Chaque étape, le fait de partir, là, de quitter les tropiques, c'était pas du tourisme. Tu vois, d'aller vers des environnements plus froids. Imagine un petit peu les contraintes qu'il y a dû y avoir derrière pour que les vieux là, qui dirigeaient la tribu ont décidé de prendre une direction qu'ils n'avaient jamais prise. C'est passé quelque chose. Et ils ont été au-devant des problèmes. Je ne sais pas si tu étais là au début de la discussion. Donc, plus tu vas vers le nord, moins il y a de nourriture. En gros, c'est un phénomène physique. Pourtant, ils l'ont fait parce que les solutions qu'ils avaient toujours utilisées, elles n'existaient plus. Ils n'avaient pas choisi ça, cette nouvelle donne. Tu vois? Et c'est vraiment notre histoire, au sens large. Si on remonte même dans les millions d'années, pourquoi est-ce qu'on a quitté l'Afrique tropicale, etc., pour gagner des latitudes au nord, de plus en plus rigoureuses, etc. Parce qu'on n'avait pas le choix. On n'a pas choisi le fait de devoir faire un certain nombre de choses. Par contre, on a été capable de saisir des opportunités et d'adapter notre technologie et même d'adapter notre organisation. Voilà. Coopération entre les sexes. Adapter notre organisation. Voilà. C'est ce que l'humanité fait depuis toujours. On s'adapte. Et nous-mêmes, la façon dont on fonctionne, la façon dont on coopère, ça a changé, ça a beaucoup changé. Et ça continuera à changer. C'est impossible autrement. C'est une loi de l'évolution. Dans quel sens? Alors nous, les communistes, on a des petites idées sur la question. Est-ce que c'est comme ça que ça va se passer? On n'en sait rien. Hein? Mais on se base sur ces phénomènes évidents, dominants, y compris pour les raisonnements politiques qu'on fait sur les problèmes auxquels la société est confrontée aujourd'hui. Oui? Vas-y. Alors, c'est le fait de s'occuper tardivement des jeunes, des enfants, tardivement, c'est le chimpanzé, je pense qu'au-delà de 3, 4 ans ou 7 ans, je ne me rappelle plus, la mère ne laisse pas le choix aux jeunes et elle le force à partir. Hein, là, ça se passe dans la douleur parce qu'il y a des phénomènes d'attachement très forts, mais la mère refuse de prolonger ce rapport-là. Et vous le savez comme moi, chez les êtres humains, ça va beaucoup plus loin. Hein. Et cette tendance, elle est très ancienne. Et c'est un comportement qui est extrêmement lourd de conséquences parce que cette nouvelle organisation, hein, le fait de s'occuper des jeunes et de retarder l'âge mature, l'âge adulte, à sélectionner, à favoriser biologiquement tous les phénomènes qui permettaient au cerveau du jeune humain de continuer à croître, à sa boîte crânienne de ne pas se ressouder trop vite, de continuer à conserver beaucoup de cartilage parce que ça continuait à gonfler là en dessous, parce que c'était sollicité. Hein, là, il me passait à tous les stimuli que le jeune néandertalien puis erectus c'est-à-dire subi bénéficie de la part de son environnement qui est de plus en plus riche, de plus en plus sophistiqué. Il y a des interactions. Vous imaginez ce que ça signifie d'être socialisé par 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100, 150. Parce que c'est ça, nous. Nous sommes des cerveaux, des machines biologiques programmées par des interactions avec plusieurs dizaines et plusieurs centaines de personnes. C'est incroyable ce qu'il y a sous notre scalp. Et c'est ça la conséquence de ce nouveau comportement de retarder la fin de l'enfance. Cette humanité créative, dynamique sur le plan technologique, sur le plan culturel, c'est la conséquence de ce choix social, ce fonctionnement social-là. On retarde l'enfance, on rallonge la période d'apprentissage qui après rapporte à la société au décuple. Et c'est très important, évidemment, c'est pas décisif. C'est tout aussi important que la conquête du feu, quoi. Voilà.
Favoriser par la coopération entre sexes, parce que la femme, c'est Oui.
C'est ça l'idée, tout à fait. Oui, oui. Pas de partage de la nourriture et pas de prolongation possible de l'enfance. C'est ça le frein. En gros.